VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 16 février 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Togo, poursuit aujourd'hui des travaux du comité préparatoire du dialogue politique qui se sont ouverts hier à Lomé.
En Côte d'Ivoire, l'opposition réclame une commission électorale consensuelle.
Ici aux États-Unis, le tueur présumé de lycéens en Floride doit répondre de 17 chefs d'accusation de meurtre prémédité.
Et nouveau revers pour le président Donald Trump, une cour d'appel fédérale a bloqué son plus récent décret migratoire.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Togo, début hier des travaux du comité préparatoire du dialogue politique qui doit s'ouvrir le 19 février à Lomé, la capitale. La première journée des discussions entre le pouvoir et la coalition des partis de l'opposition s'est déroulée à huis clos. Mais on sait que le règlement intérieur du dialogue était au centre des débats. Correspondance de Kayi Lawson.
Plus de 4 heures d'horloge, c'est le temps qu'ont duré les discussions de cette première journée du comité préparatoire du dialogue. Les travaux entre la délégation du parti au pouvoir et celle de la coalition des 14 partis de l'opposition se sont bien avancés, comme nous le dit Daniel Osei, membre de la facilitation ghanéenne.
Les deux partis, c'est-à-dire le parti Unir et les 14 partis de l'opposition, se sont réunis pour définir le règlement intérieur qui va gérer le dialogue prévu pour le 19. Pour le moment, nous préférons nous limiter au fait que le comité préparatoire s'est réuni et a fait beaucoup de progrès. Quand les travaux seront terminés, vous saurez tous les détails qui ont été discutés.
Ce vendredi, les travaux vont se poursuivre probablement avec les mesures d'apaisement. Avant le début de la rencontre, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a martelé que les mesures d'apaisement constituent le chemin qui conduira au dialogue.
Ça n'a jamais dépendu de nous. On a souhaité depuis longtemps que les mesures d'apaisement soient réglées pour qu'on entre dans le vif du sujet. Peut-être que bientôt on va rentrer dans le vif du sujet avec la réalisation des mesures d'apaisement.
À l'issue des échanges, ni le parti au pouvoir ni la coalition de l'opposition n'a fait aucune déclaration. Le comité préparatoire poursuivra donc sa tâche ce vendredi après-midi. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, l'opposition réclame une commission électorale consensuelle et elle dit se fonder sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui exige la modification de la composition de la commission actuelle. Eric Manirakiza.
D'après l'arrêt de la Cour, le gouvernement ivoirien a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial. Les deux factions rivales du Front populaire ivoirien FPI ont donc saisi la balle au bond pour demander la mise en place d'une nouvelle commission électorale consensuelle. La commission électorale indépendante, ou CI, est composée par 8 membres du pouvoir et 4 de l'opposition. Pascal Afingessa, de l'une des tendances FPI, a estimé qu'un acteur engagé dans une compétition ne doit pas dominer l'instrument de sa régulation. De son côté, Aboudramane Sangaré, chef des fondeurs du FPI, a demandé un dialogue avec le régime Ouattara, précisant qu'il ne voit pas l'intérêt d'aller à une élection en cas de rejet des discussions. Les élections municipales et régionales sont prévues cette année. En revanche, le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a rejeté les critiques contre la CI. Pour lui, la commission est le fruit d'un consensus entre tous les acteurs politiques avant les dernières présidentielles de 2015.
En Tanzanie, l'ambassade des États-Unis a dénoncé hier la violence dans ce pays après la mort d'un opposant et a appelé à une enquête transparente. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les États-Unis se disent attristés par les informations faisant état de l'enlèvement et de la violence qui ont conduit à la mort de l'opposant Daniel John. D'après le communiqué de l'ambassade américaine publié sur son site internet, l'escalade des confrontations et de la violence à caractère politique est inquiétante, appelant toutes les parties à sauvegarder la paix et la sécurité du processus démocratique. Daniel John était un responsable du Chadema, principal parti d'opposition. D'après son parti, il a été enlevé lundi en pleine rue avant d'être retrouvé mort mardi dans un hôpital de Dar es Salaam, le corps marqué de coups de machette. Freeman Mbowe, chef de l'opposition au Parlement, assure que cet assassinat est lié à la campagne électorale et a été perpétré par la Ligue de jeunesse du parti au pouvoir. Des élections partielles sont prévues ce week-end dans plusieurs circonscriptions pour remplacer des députés et élus locaux démissionnaires. Dimanche dernier, les évêques catholiques ont regretté cette tension et dénoncé les violations des principes démocratiques et de la liberté d'expression par le gouvernement de John Magufuli.
Au Soudan, l'ambassade américaine a, de son côté, exprimé hier ses inquiétudes après l'arrestation de centaines d'opposants par les autorités soudanaises. Anastasie Toudiesh.
Nombre d'entre eux sont détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes et n'ont accès ni à leur avocat ni à leur famille, affirme l'ambassade américaine à Khartoum. Parmi les personnes arrêtées, le numéro 2 du principal parti d'opposition, le secrétaire général du Parti communiste soudanais et des militants. Le communiqué de l'ambassade intervient dans un contexte de rapprochement entre Washington et Khartoum après la levée d'un embargo américain vieux de 20 ans contre le Soudan. En 2016, le pays avait déjà été le théâtre d'un mouvement de protestation réprimé qui avait fait des dizaines de morts selon des groupes de défense des droits de l'homme. Les ambassades européennes à Khartoum ont également appelé à la libération des manifestants. Ces derniers dénonçaient la cherté de la vie après l'augmentation des prix du carburant.
Soudan du Sud, l'émissaire spécial de l'ONU David Shearer estime que le dernier round de pourparlers de paix mené sous l'égide de l'Éthiopie pourrait s'achever aujourd'hui sur un accord ouvrant la voie à terme à la fin de la guerre. L'Union africaine et le Conseil de sécurité ont menacé d'imposer des sanctions à ceux qui bloquent les efforts de paix au Soudan du Sud, entré cette année dans sa cinquième année de guerre. Une guerre marquée par des atrocités à caractère ethnique et qui a fait des dizaines de milliers de morts.
En Égypte, le procureur a ordonné la détention pour 15 jours d'un dirigeant de l'opposition, Abdelmonem Aboul Foutou, dont nous vous annoncions hier l'arrestation par la police. Le point avec Morgane Guiriec.
Abdelmonem Aboul Foutou a été arrêté mercredi avec 5 de ses adjoints. Le ministère de l'Intérieur l'accuse d'avoir des contacts avec des membres des Frères musulmans en exil pour semer le trouble et l'instabilité dans le pays. L'Égypte forte, la formation politique qu'il dirige, a indiqué qu'il est accusé d'être à la tête d'une organisation terroriste, de diffuser de fausses informations et qu'il a été transféré à l'hôpital de la prison. Monsieur Aboul Foutou a été candidat à la présidentielle de 2012, puis est resté très critique du gouvernement égyptien. Il vient de lancer avec d'autres opposants un appel à boycotter la présidentielle du 26 mars, accusant le régime d'empêcher toute compétition loyale. Par ailleurs, le parquet militaire a ordonné la détention de Hicham Geneina, conseiller du général Sami Anan et ancien chef d'état-major de l'armée égyptienne. Monsieur Anan lui-même a été arrêté et exclu en janvier de la course à la présidence. Il est accusé par les autorités de ne pas avoir respecté les procédures et de semer la division. Ainsi, le président Abdel Fattah al-Sissi, qui dirige l'Égypte d'une main de fer depuis 2014, reste le seul candidat sérieux à sa propre succession le mois prochain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, une juge de Floride a ordonné la détention sans caution jusqu'à son procès de Nicholas Cruz, accusé de la dernière fusillade de masse dans le pays. Ce jeune homme de 19 ans, dit mentalement perturbé, doit répondre de 17 chefs d'accusation de meurtre prémédité. Quelques heures auparavant, le président Donald Trump avait à la Maison-Blanche fait une brève allocution pour le citer à une nation en deuil. Il a promis de rencontrer bientôt des officiels de tout le pays pour faire face à la question difficile de la santé mentale, pour éviter les tueries de masse et faire de la sécurité dans les écoles la priorité numéro un. Mais M. Trump n'a pas mentionné de nouvelles propositions sur le contrôle des armes à feu.
Toujours aux États-Unis, une cour d'appel fédérale a bloqué le décret présidentiel interdisant l'entrée sur le territoire de ressortissants de 6 pays à majorité musulmane. Il s'agit d'un nouveau revers pour l'administration Trump. Abdulrahman Diab.
La décision de cette cour, basée à Richmond, en Virginie, est la deuxième de ce genre prise par un tribunal fédéral après celle basée à San Francisco, en Californie. Avec un vote de 9 pour et 4 contre, la juridiction a estimé que le décret du président Trump constituait une violation de la Constitution car c'est une discrimination contre les musulmans. Les juges ont argumenté que les propos du président tenus par le passé démontraient un parti pris contre cette communauté. La Cour suprême avait permis au gouvernement de mettre en application ce décret en septembre. Pendant que le processus d'appel se poursuit, la Cour suprême doit se pencher sur le cas en avril et devrait annoncer sa décision en juin.
On a besoin.
Voilà.
Concernant toujours l'immigration, le Sénat américain a rejeté hier toutes les propositions qu'elle examinait depuis une semaine de débat sur le statut légal de jeunes sans papiers qui risquent d'être expulsés à partir du 5 mars. En réaction, un sénateur républicain du Colorado, Cory Gardner, a dit dans un tweet qu'il est déçu qu'on n'ait pas pu trouver une solution aujourd'hui, mais que cela ne signifie pas qu'on en a terminé avec ce travail.
La Suède et le Koweït ont remis à leurs partenaires du Conseil de sécurité un projet amendé d'une résolution réclamant un cessez-le-feu de 30 jours en Syrie pour un accès humanitaire immédiat. Ce projet vise à obtenir l'aval de la Russie, selon des diplomates.
Entretien ouvert et productif entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson hier sur l'amélioration des rapports entre Washington et Ankara à propos de la situation dans le nord de la Syrie. C'est du moins ce qu'a déclaré un porte-parole du département d'État. Rex Tillerson est arrivé en Turquie hier pour une visite de 2 jours que les responsables américains considèrent comme la plus délicate de sa tournée de 5 jours dans la région. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jean-Roger Bion.
Le Sénégal a réclamé jeudi plus de 10 millions d'euros de dommages et intérêts au maire de Dakar, Khalifa Sall, et à ses co-accusés jugés pour détournement de fonds publics dans le cadre de la gestion de sa mairie. L'État, partie civile dans ce procès, très médiatisé au Sénégal, dit avoir décaissé cette somme parce que Khalifa Sall et les 7 collaborateurs jugés à ses côtés ont produit de fausses factures. Côte d'Ivoire, KFC tente à nouveau de s'implanter à Abidjan. La chaîne américaine de restauration rapide, connue pour ses recettes à base de poulet frit, doit ouvrir d'ici la fin de l'année 2018 son premier restaurant à Abidjan. C'est la deuxième tentative pour KFC dans la capitale ivoirienne. Il y a cette fois un deal bien ficelé entre le groupe ivoirien Vivo Energy et KFC. Il ne resterait plus qu'à signer et à finaliser l'accord. Et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont rebondi la semaine dernière aux États-Unis, tout en restant à des niveaux associés à une phase de resserrement du marché du travail. Malgré ce léger rebond, les inscriptions au chômage restent inférieures au seuil de 300 000 pour une 154e semaine d'affilée, une série inédite depuis les années 1970, quand le marché du travail était bien moins important. Les États-Unis sont quasiment en situation de plein emploi, avec un taux de chômage à son plus bas niveau depuis 17 ans à 4,1%.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La RD Congo monte sur le podium du classement FIFA.
Pour sa deuxième livraison de l'année 2018, le classement mondial FIFA ne connaît pas beaucoup de changements sur le continent. Le top 10 reste en l'état, mais quelques mouvements à signaler. En l'occurrence, la troisième place de la RD Congo en Afrique. Les Léopards précédemment cinquième double l'Égypte et le Maroc pour se retrouver sur le podium derrière la Tunisie et le Sénégal. Lions de l'Atlas et Pharaon complètent le top 5 africain. Sur le plan mondial, l'Allemagne domine toujours les débat. Elle est suivie du Brésil et du Portugal.
Europa League, les matchs des 16e de finale se sont joués hier.
Tout à fait, Idrissa. L'Olympique de Marseille a fait bonne mine au Vélodrome 3-0 face à Braga avec un doublé de Valère Germain, doublé également pour Mario Balotelli de l'OGC Nice et pour Fernandez du Lok de Moscou. Un match fou remporté par les Russes 2-3. 3-0 pour Arsenal devant les Suédois d'Östersund. 3-1 pour l'Athletic Bilbao face au Sparta de Moscou. 3-0 pour le Milan AC face à Ludogorets. Un peu plus tôt, le Sporting Club de Lisbonne a supplanté Astana à domicile 3-1.
En cyclisme, 4 nouvelles médailles d'or pour l'Érythrée au championnat d'Afrique.
Décidément, Idrissa, Kigali 2018 a une nouvelle fois souri à l'Érythrée. Le pays s'est adjugé 4 médailles d'or dans les épreuves individuelles de contre-la-montre hier. Chez les hommes en élite, Mekseb Dibessé s'est imposé en devançant le Rwandais Jean Bosco Nsengimana et son compatriote Joseph Areruya. Areruya qui a remporté la catégorie des moins de 23 ans devant l'Éthiopien Redouane Ibrahim et l'Érythréen Seymon Moussi. Chez les juniors, l'Érythrée était encore au top avec Biniam Djirmei devant le Rwandais Yves Nkuruziza et un autre Érythréen, Nathan Medani. Dans la catégorie dames juniors, l'Érythréenne Kessiet Kidane s'est imposée devant les Éthiopiennes Kazaoun Aïlo Zaïd. Chez les seniors, Moussana Dibessé rafle la médaille d'or. Ce vendredi, c'est jour de repos Idrissa. La suite, c'est demain samedi. Avant la position.
l'apothéose dimanche. NBA pour terminer avec vous, Idrissa, quelques résultats de la nuit dernière.
Les Denver Nuggets ont battu les Milwaukee Bucks 134 à 123 et les Minnesota Timberwolves ont eu raison des Los Angeles Lakers 119 à 111.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa s'est engagé devant le Parlement à éradiquer la corruption qui mine le pays. Il a été officiellement élu hier, comme vous le savez, à la suite de la démission mercredi soir de son prédécesseur Jacob Zuma. M. Ramaphosa a indiqué qu'il donnera aujourd'hui les détails de certaines de ses propositions lors de son premier discours sur l'état de la nation à 17h temps universel. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint la chercheuse à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria, Liz Love Orden.
Je pense que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Afrique du Sud. Après 10 ans presque de règne de Jacob Zuma, beaucoup de gens autour de Jacob Zuma ont été accusés de corruption. Et donc, Ramaphosa vraiment mène avec lui un vent d'espoir parmi même l'opposition. Il y a un espoir que Cyril Ramaphosa va non seulement éradiquer la corruption, mais vraiment travailler pour améliorer l'économie du pays, encourager les investissements, redorer le blason d'un pays qui a tous les potentiels. Et sous Nelson Mandela et Thabo Mbeki, qui étaient vraiment sur des bons rails. Et, mais ça ne va pas être une tâche facile du tout, parce qu'il y a des problèmes structurels dans l'économie sud-africaine. Il y a le chômage, il y a des problèmes dans le secteur minier, chômage des jeunes. Aussi, on a un grand problème dans notre système d'éducation qui sont profondes et qui vont être très difficiles à améliorer sur le court terme, mais au moins aujourd'hui, tout de suite, la bourse de Johannesburg a explosé aujourd'hui, le rang de la monnaie a gagné en valeur. Au moins, il y a un espoir de nouvelle époque.
Ramaphosa, il était vice-président de Jacob Zuma. Comment peut-on percevoir ce changement comme un renouveau?
Ça, c'est une question qu'on pose souvent, mais lui-même, personnellement, n'a jamais été accusé de corruption. Il n'est pas du tout impliqué dans des scandales autour de Jacob Zuma. Donc, on va voir dans les prochains jours. Beaucoup d'analystes pensent qu'il y aura un nouveau gouvernement avec plusieurs nouveaux ministres. Donc, Cyril Ramaphosa va être obligé de nettoyer un peu autour de lui dans les rangs de l'ANC et mettre ses hommes et ses femmes qui sont de son camp au gouvernement. Sinon, ça ne va jamais marcher parce que ça va être une équipe divisée, profondément divisée d'ailleurs.
Quelle leçon faut-il tirer?
La démocratie est unique et le système gouvernemental électoral est aussi unique. Et je pense qu'on va beaucoup réfléchir sur ce système. Vous voyez, ce n'est pas un système présidentiel, donc nous n'avons pas des élections présidentielles. Tout repose sur le parti et quelque part, le pays tout entier est parfois pris en otage par le parti au pouvoir.
C'était Liesel Love Vaudran de l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour sur le sommet tripartite qui s'est tenu mercredi dernier à Kinshasa entre les présidents Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et João Lourenço d'Angola. Ils ont abordé notamment la situation dans la région du Pool et les futures élections en République démocratique du Congo. Idriss Fall a joint Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, qui en a profité pour apporter un droit de réponse sur la voie de l'Amérique.
Les trois chefs d'État se sont félicités de ce que les perspectives étaient bonnes en ce qui concerne la possibilité d'organiser les élections à date convenue. Ils ont félicité leur homologue Joseph Kabila pour avoir respecté jusque-là tout ce qui avait été convenu par les parties prenantes à l'accord du 31 décembre 2016. et ils ont invité toutes les parties congolaises à se conformer à ce calendrier qui a été élaboré par la Commission électorale nationale indépendante, tout en prenant une option très claire contre toute tentative de vouloir s'emparer du pouvoir en République démocratique du Congo par des voies autres que celles prévues par la Constitution.
La voix de l'Amérique vous doit un droit de réponse à l'issue d'une interview que vous nous aviez accordée. Quel rectificatif pouvez-vous amener sur choisir un dauphin ou ne pas choisir un dauphin?
On m'a fait dire que le président Joseph Kabila allait choisir un dauphin au mois de juin ou de juillet. Je tiens à démentir de la manière la plus catégorique ce que j'ai dit lors de mon entretien avec votre confrère Nicolas Pineau. C'était que ceux qui s'intéressaient à cette question devaient simplement se référer au calendrier électoral qui avait été publié par la Commission électorale nationale indépendante. Au regard de ce calendrier, le dépôt des candidatures était programmé entre le mois de juin, juillet et août, et qu'il fallait un peu de patience pour connaître à ce moment-là qui seraient les candidats des différentes formations politiques, y compris la formation politique du président Joseph Kabila, et que c'est parmi ces candidats que le peuple congolais aurait à choisir son futur dirigeant. Alors je n'ai pas compris que l'on m'ait fait dire que j'ai parlé de dauphin. Un dauphin, on ne se soumet pas à une élection. Un dauphin, lorsqu'on le choisit, il remplace automatiquement le roi qui était là. Mais à ma connaissance, le Congo n'est pas un royaume, donc c'était une très mauvaise interprétation.
C'était Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Niger, plus de 2 millions de personnes ont besoin d'assistance dans le pays cette année, selon l'ONU. Pour faire face à cette situation, les partenaires humanitaires du Niger ont besoin de 338 millions de dollars. Un plan de financement a été lancé à cet effet hier, nous dit notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
La situation humanitaire du Niger est marquée par la combinaison de vulnérabilités chroniques et aiguës, se caractérisant par une insécurité alimentaire dans des zones telles que Diffa et Tillaberi, une malnutrition qui touche plus d'un million d'enfants, des déplacements prolongés des populations, particulièrement à Diffa du fait de Boko Haram, mais aussi par des épidémies saisonnières et des inondations récurrentes. Les personnes touchées par ces vulnérabilités sont estimées à 2 300 000, soit près de 400 000 personnes de plus que l'année précédente. Binta Jubo, coordonnatrice humanitaire de l'ONU pour le Niger.
Si vous voyez qu'il y a une augmentation, c'est que la situation a évolué. On l'a dit, il y a la situation sécuritaire qui impacte les populations et que cette situation, on ne l'avait pas l'année dernière. Nous prenons aujourd'hui le front Mali-Burkina, c'est un nouveau front qui s'est développé. Donc naturellement, il y aura plus de personnes affectées que l'année dernière. Ce plan que nous avons lancé ce matin va permettre à faire face à l'insécurité alimentaire à Diffa et dans la zone de Diffa et de Tillaberi et également prendre en charge des enfants qui souffrent de malnutrition modérée et aiguë.
C'est la septième année que ce type de plan est élaboré par les acteurs humanitaires du Niger pour faire face à l'urgence. Celui de 2017 a été financé à hauteur de 80%. Les autorités du pays espèrent que ce nouvel appel au financement connaissent le même succès. Yabila Maman, responsable de la cellule crise alimentaire au cabinet du Premier ministre.
Le plan qui a été déroulé en 2017, le niveau de réalisation a été à hauteur de 79%. C'est un bon niveau de réalisation. Vous avez vu aussi bien son Excellence Monsieur le Premier ministre que Madame la coordinatrice humanitaire a lancé un appel à tous les acteurs, donc y compris les partenaires techniques et financiers, pour qu'on se mobilise autour des objectifs de ce plan-là pour permettre d'atteindre les objectifs objectif qu'on s'est fixé.
Répondant à certaines critiques qui leur reprochent un accent trop mis sur l'humanitaire aux dépens du développement, la coordonnatrice humanitaire de l'ONU pour le Niger a affirmé que le sommet humanitaire mondial de 2016 a effectivement recommandé la recherche de complémentarité entre l'humanitaire et le développement, ce à quoi il s'attelle au Niger, dans la région de Difa notamment, qui a un grand potentiel pour cela. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les talibans se disent prêts à dialoguer pour mettre un terme au conflit en Afghanistan. Ils précisent toutefois que leur volonté de jouer un rôle constructif afin de trouver une issue pacifique au conflit ne doit pas être interprétée comme un signe de faiblesse. Pour les enjeux de ce dialogue, Jean-Roger Bion a joint à Paris Karim Pakzad, spécialiste de l'Afghanistan.
Comme au début des années 2000, les États-Unis privilégient une solution militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains pensent gagner cette guerre avec 10 à 15 000 soldats, ce qu'ils n'ont pas pu faire avec 100 000 soldats dans les années 2010, 11, 12 et 14. Mais en même temps, les talibans refusent toujours de discuter directement avec le gouvernement de Kaboul parce qu'ils considèrent que le gouvernement de Kaboul n'a pas de légitimité et que leurs adversaires sont des Américains.
Qu'est-ce qui pousse les talibans aujourd'hui, en ce moment précis, à demander le dialogue?
Parce qu'ils se sentent forts, contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont présents aujourd'hui dans presque la moitié du pays et même ils contrôlent certaines localités importantes en Afghanistan et qu'ils sont très forts et que surtout les talibans profitent d'une situation nouvelle. L'État islamique Daesh est apparu en Afghanistan. Daesh commet des attentats sanglants et présente aujourd'hui une menace, notamment pour les pays voisins, pour la Russie, pour la Chine. Vous savez que la Chine et la Russie ont discuté avec les talibans. Ils ont même reçu officiellement les délégations des talibans africaines à Moscou. Et donc, c'est le moment que les talibans profitent pour faire comprendre aux Américains que de toute façon, maintenant, les grandes puissances régionales discutent avec nous, qu'ils nous reconnaissent comme une partie de la guerre en Afghanistan. Venez discuter avec nous.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la nouvelle stratégie de dialogue et le déluge de feu qui a marqué ces derniers jours avec les attentats en série à Kaboul?
Non, évidemment, dans toutes les guerres, que ce soit des guerres classiques ou dans une situation telle que l'Afghanistan, une guerre asymétrique, chaque partie essaie de marquer des points avant d'aller aux négociations pour obtenir davantage. Ça, c'est une règle générale. Bon, les Américains pensent également que non, ce n'est pas le moment de négocier parce qu'à ce moment, ce sont les talibans qui ont l'initiative sur le terrain. Les Américains pensent qu'il faudrait qu'ils marquent des points, qu'ils affaiblissent davantage les talibans avant de négocier. Vous voyez, les deux parties calculent en fait de la même façon.
C'était de Paris, Karim Pakzad, spécialiste de l'Afghanistan.
Chaque vendredi sur VOA Afrique, retrouvez John Linden dans L'Amérique et vous.
L'Amérique et vous, c'est un condensé de la vie aux États-Unis avec l'éclairage de nos experts.
En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est Justice pour l'Afrique.
Fidel Castro était vraiment le cauchemar des États-Unis d'Amérique.
L'Amérique et vous, c'est aussi la politique intérieure et les problèmes de société vus sous l'angle américain et africain.
Que c'est une bonne politique qui se vit du côté des États-Unis.
Je crois qu'il faut saluer d'abord cette initiative américaine.
L'Amérique et vous, votre fenêtre sur les États-Unis tous les vendredis 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Comme il a mal là.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Alberton pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.